Je voulais vous parler ce soir et vous faire découvrir, peut-être même certainement très fortement, redécouvrir un passage de la Bible que vous connaissez certainement. C'est encore un autre grand classique. Et je voudrais vous le faire vraiment redécouvrir. J'ai intitulé ce message L'amour du Père à la lumière de la parabole du Fils prodigue. Je vous invite donc à prendre le passage qui se trouve dans Luc au chapitre 15 et au verset 11. Il dit ceci. Il dit encore, Jésus, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton fils, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez la parabole du fils prodigue et peut-être même vous vous associez un petit peu, on se focalise souvent sur la partie du fils cadet, vous savez, celui qui est parti. Il a demandé l'héritage à son père, la partie de son bien, puis il va le dilapider, il est en galère, il rencontre tellement d'épreuves, alors il va travailler, et puis sa situation est tellement misérable qu'il finit par rentrer en lui-même, réfléchir et dit, mince, mais j'étais finalement beaucoup mieux chez mon père. Et ensuite, on entame la démarche de repentance, et là, on festoie. Et souvent, lorsqu'on cite cette parabole, on se focalise sur cette partie-là. C'est un message d'évangélisation, c'est un message de bonne nouvelle pour parler de l'amour inconditionnel du Père, de l'amour inconditionnel de Dieu. Et on l'a bien compris, parce que ici, le Père représente Dieu. Mais j'aimerais ce soir un petit peu remettre les choses dans le contexte pour aller, je vais dire, dans le sens un peu plus fondamental de la parabole. Et pour ça, on va revenir juste au tout début du chapitre et au verset premier. Il dit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les publicains, c'était les collecteurs d'impôts, les taxeurs et les gens de mauvaise vue, c'est pouvaient toutes sortes de pécheurs, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, les pharisiens, c'est les religieux de l'époque, et les scribes, c'était ceux qui étaient très forts en théologie et qui étudiaient beaucoup la loi, murmuraient et disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 3. Mais il, Jésus-Christ, leur répondit cette parabole. Et tout à l'heure, on avait commencé en fait le verset 15, le chapitre 15 avec le verset 16, au verset 11, pardon, où il dit encore. En fait, la parabole du fils prodigue, c'est la troisième parabole citée suite au verset 2, où en fait, les pharisiens et les scribes, les docteurs de la loi, murmuraient contre Jésus. Parce que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, avec les taxeurs, ce que dont les juifs de l'époque n'aimaient pas du tout. Et Jésus répond par la parabole. Mais avant cela, il parle d'abord de la parabole de la brebis perdue. Il continue avec la parabole de la drachme perdue ou de la pièce perdue. Aujourd'hui, on ne parle plus de drachme. Aujourd'hui, je pense qu'aucun d'entre vous sait ce que c'est qu'une drachme. Donc, parlons des choses qu'on comprend. Disons la pièce perdue. Et il continue, il enchaîne avec la parabole du fils prodigue. Ou en fait, pour être plus précis, la parabole des deux fils. Parce que si on comprend et on reprend la parabole en entière, Jésus accorde aussi beaucoup d'importance au fils aîné. Du verset 25 au verset 32. Mais on va y revenir au fils aîné. Mais pour comprendre le sens fondamental, il faut comprendre à qui s'adressait Jésus lorsqu'il parle de ses paraboles, lorsqu'il parle de la brebis perdue, lorsqu'il parle de la drachme perdue ou la pièce perdue, lorsqu'il parle de la parabole des deux fils. Et pour comprendre ça, on lit ce verset 3 où il dit cette parabole et l'auditoire était composé des taxeurs, des collecteurs d'impôts, des pécheurs notoires, des gens de mauvaise vie, les pharisiens et les scribes. Et c'est en réponse au murmure des pharisiens et des scribes que sont arrivées ces trois paraboles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En gros, il est en train de dire aux pharisiens, aux docteurs de la loi, et là, ici, aux pêcheurs notoires et aux taxeurs, il disait ceci parce que il disait, vous étiez là, vous, pêcheurs notoires, vous, taxeurs, vous, collecteurs d'impôts, et vous êtes comme cette brebis perdue que le berger est parti chercher parce que vous avez autant de valeur que les 99 que j'ai laissées derrière dans le désert. Vous, collecteurs d'impôts, pêcheurs notoires, vous êtes comme cette drachme perdue, cette pièce perdue qui a mérité qu'on passe du temps à fouiller toute la maison, à ranger, juste pour te retrouver. Vous, collecteurs d'impôts, vous, pêcheurs notoires, vous êtes comme ce fils cadet qui avait cru pendant un certain temps que le bonheur se trouvait en dehors de ses murs, en dehors du domaine du Père, et que l'argent suffisait pour faire le bonheur, qu'il fallait juste vivre dans la débauche, vivre selon le train de ce monde, selon les convoitises de ce monde, tout ce que peut ce monde peut nous offrir. Mais pendant un temps, vous avez cru cela. Et puis un jour, étant rentré en vous-même, vous avez compris que le meilleur, c'était dans le domaine du Père, dans la présence du Père. Vous savez, on l'a lu dans la version Louis II, où il est dit, verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Dans la version du semeur, il est écrit, les collecteurs d'impôts et autres pêcheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Je ne sais pas si un jour vous êtes arrêté sur un peu ce que c'est qu'un pêcheur notoire, ça va, mais un collecteur d'impôts, souvent on va dire, ce sont des gens peut-être qui ne sont pas, qui sont incroyants. Parce que quand on parle de la parabole, on parle souvent des gens incroyants qui peut-être reviennent ou qui découvrent Jésus, la vie avec Dieu. Et finalement, en fait, on se rend compte que le fils cadet se trouvait au départ dans la maison du père. C'est-à-dire que les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires étaient juifs. Ils étaient de culture juive. Et qu'à un moment donné de leur vie, ils ont cru dans leur conception que c'était mieux ailleurs. Évidemment, collecteur d'impôts, on propose le boulot, on prend. Pourquoi? Parce que, ben, on se fait de l'argent. Du coup, sur le confort matériel, on y est. Pourquoi des gens qui, sur le confort matériel, iraient revenir, se rapprocher, se presseraient pour aller voir Jésus, pour l'écouter, avide, c'est-à-dire, je veux écouter ce que dit Jésus-Christ. Pourquoi un gars, une personne, des gens se presseraient alors qu'ils ont le confort qu'ils ont, s'approcheraient pour écouter les enseignements de Jésus? Si je transcris ça aujourd'hui au XXIe siècle, pourquoi nous qui peut-être avons de l'argent, nous qui avons un certain confort, on se rapprocherait de Jésus? Pourquoi on s'approcherait d'une église pour entendre la bonne nouvelle? Pourquoi serions-nous assoiffés d'entendre le message de l'Évangile? Peut-être qu'à un moment donné, en fait, on a compris dans notre cœur que le confort matériel ou toutes ces choses n'étaient pas suffisants. Là où on croyait auparavant que l'argent faisait le bonheur, finalement, il ne fait qu'un petit peu contribuer, mais que finalement, mon vrai bonheur se trouve ailleurs. Et que c'est pour ça qu'on va chercher dans le spirituel, peut-être dans la religion, mais que la solution, évidemment, c'est Jésus-Christ. Ces gens qui étaient d'origine et qui avaient la culture, l'éducation juive sont revenus vers un rabbi, Jésus, un enseignant. Ils avaient soif parce qu'il avait le message du salut, le message qu'il fallait entendre. Ils ont tout abandonné pour s'approcher. Ce message, c'était le message d'amour qui disait, voilà, vous êtes cette brebis perdue, cette drachme perdue, vous êtes comme ce fils cadet. Et voici, la grâce est là. Si on revient sur le frère aîné, qui représente les docteurs de la loi, ceux qui avaient étudié pendant des temps et des temps et des temps la Torah, la loi, tout. Et puis les pharisiens qui étaient des très grands religieux, renommés, ce seraient ceux qui représenteraient le fils aîné. Et dans cette conception-là, en fait, on se dit, mais si on regarde tout le parcours du verset 25 au verset 32, quand le fils cadet revient repentant dans la présence de son père et que le père veut fêter cela, au verset 28, il est dit, le fils aîné se met en colère et ne voulut pas rentrer. Il démontre là qu'en fait, il n'avait aucune compassion, ni soulagement. Son frère cadet s'en va des années et des années, autant de temps, X temps en fait finalement. Et puis le jour où il revient, ce n'est même pas l'amour fraternel. C'est de dire, je suis en colère parce que mon père, il est en train de festoyer, lui qui a osé mépriser le père, évidemment. C'est très compliqué à gérer. Mais il arrive et il n'y a pas une question de fraternité. Il ne dit pas, est-ce qu'il est en bonne santé, pas en bonne santé? Non. Il dit, je ne veux pas rentrer. Verset 29. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Il parle à son père, sans avoir transgressé tes ordres. Il met en avant le fait que pendant des années, peut-être que c'est vrai, enfin, c'est vrai s'il le dit, il n'a pas transgressé. L'image du pharisien, du religieux de l'époque, il y a la loi, on l'applique. Et jamais je l'ai transgressé. Je me suis même efforcé à l'étudier, à aller encore plus loin. Et jamais, 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 j'ai fait des œuvres. Je suis fantastique et merveilleux. Je donne la dîme de tout. J'enseigne. Jamais je me suis écarté, jamais je me suis mis dans le péché. Et lui qui arrive et qui revient, tu veux tuer le veau gras pour lui, pour festoyer, alors que moi qui ai respecté la loi sans jamais la transgresser, je n'ai pas droit à ça. Et c'est là où toute la conception est fausse, en fait. Parce que le pharisien et le docteur de la loi, ils vivent sous le concept de la méritocratie. Je mérite parce que j'ai fait. Je mérite parce que les œuvres sont là. Et c'est ça. C'est peut-être ça aussi le problème aujourd'hui de notre conception actuelle. C'est que parfois, à cause aussi, je vais dire, du courant de notre société, c'est qu'on comprend qu'en fait, on mérite les choses. Je travaille, donc je mérite un salaire. Je fais des œuvres, donc je mérite. Je fais tant d'efforts, donc je mérite. Et on fait rentrer toutes ces choses dans notre tête. La méritocratie. Je suis là, je respecte ta loi. Je suis là, je te sers. Je suis là, je fais tellement d'actions. Mais je ne reçois pas les bénédictions. Pourquoi lui qui vient à peine d'arriver, lui il est guéri de je ne sais quelle maladie, et moi qui pendant des années souffre dans ma maladie et que je suis quand même fidèle, extraordinaire, je me donne à fond, pourquoi moi je ne suis pas guéri? Pourquoi je n'ai pas de bénédiction alors que ça fait tant d'années que je te sers, tant d'années que je fréquente l'église, tant d'années que j'étudie, tant d'années que j'écoute prédication sur prédication, message sur message, tant d'années que je fais des choses. Et où est ce que je mérite? Où est la bénédiction tant attendue? Ça, c'est le message du pharisien. Ça, c'est le message du docteur de la loi. Ça, c'est le message, des fois, de nous, lorsqu'on a peut-être une mauvaise conception du Père. Et c'est là que le Père, c'est là que Jésus remet les choses. Ce n'est pas une question de mérite. Tout ça, c'est par grâce. Tout ça, c'est par amour. Le Père n'est pas dans le mérite. Évidemment, il faut servir. Évidemment, il fallait être dans la maison du Père. Il n'a pas dit qu'il a mal fait les choses, le fils aîné. Enfin, le Père n'a pas dit que le fils aîné a mal fait les choses. Il a dit, il fallait juste demander. Tout ce que j'avais, tu avais droit. Mais toi, tu avais compris que pour avoir, il fallait œuvrer, il fallait faire des bonnes actions. On peut vivre pendant un certain temps, des années, un grand moment dans la présence du Père et ne jamais vouloir comprendre qui il est vraiment. Vous savez, l'ambition de ces deux personnes, le frère aîné comme le fils aîné comme le fils cadet, ce n'était pas de connaître le Père. C'était d'avoir les bénédictions du Père. Et là, on en perd tout le sens. Est-ce parce que du coup, le peuple juif hébreu méritait que Dieu l'avait sorti de la servitude d'Égypte? Est-ce parce que les Hébreux méritaient à chaque fois d'être libérés par un héros suscité par Dieu lors du temps des juges? Est-ce parce qu'ils méritaient qu'ils ont vécu tant de victoires dans leur vie, libérés par la main de Dieu? C'est par amour et par la grâce. Et ça, au fur et à mesure du temps, on peut l'oublier. Parce que quelque part, ça nous arrange. Ça nous arrange de mériter. Parce que quelque part, on a besoin de reconnaissance. Lorsque le message s'adressait aux publicains et aux gens de mauvaise vie, il y avait quelque chose qui se retrouvait assez souvent dans ces trois paraboles et qui d'ailleurs se retrouve au verset 24 de la parabole des deux fils. Je relis. « Car mon fils, voici qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Il le redit encore, il le répète au verset 32. « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. » Cette expression se retrouve dans les deux précédentes paraboles, pour se réjouir ensemble. Et un peu plus tard, dans le livre de Luc, au chapitre 19, Jésus énonce cette même chose, il dit « Car le Fils de l'homme est venu et sauvé ce qui était perdu. » Et c'est lors d'un épisode très particulier. Il dit ça, en fait, lorsqu'il va manger chez Zachée. Et Zachée était quoi? Un collecteur d'impôts. Il était perdu. Il est retrouvé. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que Luc le mentionne plus tard avec le cas concret de Zachée. Une autre chose un peu plus drôle, anecdotiquement parlant, parler du message lorsque Jésus s'adresse aux collecteurs d'impôts, quand il s'adresse aux pharisiens et aux docteurs de la loi, lorsqu'il est en train de dire, vous voyez, ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires, en fait, ils ont énormément de valeur. Ils sont plus précieux. Ils sont autant précieux que vous. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Et ce n'est pas par mérite, c'est à cause de l'amour du Père. C'est par grâce qu'ils sont là et parce qu'ils ont soif. Et c'est lors d'un entretien avec un certain docteur de la loi que Jésus énonce ce message d'amour et de grâce. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez le Jean 3, 17? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce message qu'il est en train de dire, que Jésus est en train de dire aux pharisiens et aux docteurs de la loi, il est en train de dire, je ne suis pas là pour juger. Est-ce que vous êtes plus grand pour condamner, juger ceux qui pendant un temps se sont égarés? Êtes-vous plus grand pour pouvoir condamner ces gens qui, pendant un certain temps de leur vie, se sont égarés? Le plus important pour le Père, et c'est ce que Jésus veut rappeler, ce n'est pas les choses bien ou mal que l'on peut faire. Ce sont ces gens qui ont soif de Dieu, qui ont soif de connaître le Père, d'avoir de nouveau cette relation avec le Père. Et c'est ce qui se passait quand, du coup, les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires revenaient se presser pour écouter ce que Jésus avait à leur dire. Et parfois, on se trompe. Parce que lorsqu'on est en train de juger la personne quelque part, sur le plan spirituel ou qu'importe, on est en train aussi peut-être des fois de dire inconsciemment, vous voyez, je suis plus spirituel. Et c'est ce que les pharisiens et les docteurs de la loi disaient en fait au peuple. Essayer de montrer, moi je donne la dîme de la menthe, du cumin, etc. Je donne la dîme de tout, je prie, je jeûne 2 fois par semaine. Ils montraient leur spiritualité. Et peut-être quelque part ce qu'on fait, alors que le vrai message de l'évangile, le vrai message de Jésus, ce n'était pas de dire que vous êtes plus ou moins spirituel, que les choses que vous faites sont plus ou moins bien. Non, celui qui a vraiment compris le cœur même du cœur, du Père, pardon, le message même de ce que Dieu voulait, c'était l'amour et que vous fassiez de même. Le Père était là et il attendait le Fils cadet. Et une des choses que l'on retrouve, cette expression que j'aime énormément, c'est « et le Père ému de compassion ». Cette expression que l'on retrouve lorsqu'on parle du bon Samaritain, cette expression que l'on retrouve souvent et très souvent et quasiment exclusivement que lorsqu'on décrit Jésus-Christ, lorsqu'il voit la foule, lorsqu'il voit les gens, il est marqué « ému de compassion ». Nulle part ailleurs, c'est-à-dire pris dans ses tripes, dans ses entrailles, lorsqu'il voit ces gens, ne voyant pas des choses qu'il a fait bien ou mal, ne voyant pas le péché, mais voyant le besoin d'une âme sauvée, de quelqu'un qui a besoin de la réconciliation avec Dieu le Père, de redécouvrir l'amour du Père, non pas parce qu'il mérite, mais de redécouvrir encore plus que les choses que Dieu peut nous accorder, quelque chose encore plus grand que cela. Et nous sommes invités à tout cela. Pour conclure, j'aimerais juste nous poser la question, qui suis-je? On peut être catégorique et en dire, Moi, je ne suis pas le fils aîné. Moi, je ne suis pas le fils cadet. Mais en lisant et en étudiant un petit peu cette parabole, je me dis qu'en fait, quelque part, on est un peu des deux. Je suis comme le fils cadet lorsque je cherche plus les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même. Lorsque je crois que je peux me débrouiller par moi-même sans l'aide de Dieu. Lorsque je ne cherche pas les principes du Père. Lorsque je crois savoir qu'il y a ce qu'il y a de mieux pour moi, même que Dieu, etc., etc. Je suis comme le fils aîné lorsque je cherche plus les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même, comme le fils cadet. Je suis en rivalité avec mon frère, ma sœur, lorsque je suis jaloux de la grâce que le Père a accordée à mon frère ou à ma sœur. Lorsque je crois que c'est parce que je fais des œuvres ou des bonnes actions que je mérite la faveur de Dieu. Et que donc j'oublie la notion de grâce. Lorsque je m'entête à ne pas accueillir mon frère, ma sœur repentant, et que je considère ma propre justice et non celle de Dieu. Lorsque je manque de compassion et que je renie mon propre frère ou ma sœur, etc., etc. Quoi faire? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à. Que Dieu nous aide à comprendre la réalité de cet amour, la profondeur. La profondeur de l'amour du Père. Souvent, on parle de Dieu, 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 Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il a présenté cette facette de Dieu comme le Père. Et souvent, dans notre vie, on a une image un petit peu faussée du Père à cause de notre Père biologique, aussi imparfait soit-il. Et c'est pour cela que on est invité à redécouvrir le Père et à redécouvrir l'amour du Père. Parce qu'on a cette conception du Père, de l'amour du Père, de l'amour tout court, comme le monde nous le fait comprendre, bien imparfait. Et dans notre démarche, dans la foi, c'est quelque part ce qu'on doit chercher à faire aussi lorsqu'on se réunit. Seigneur, montre-moi encore plus ton amour qui fait que des fois, dans ma conception, je suis dans la condamnation de la personne, mais moi, je ne veux pas le voir sous le filtre de la condamnation ni du jugement. Je veux le voir par tes yeux, ce regard de compassion. Parce que le plus important, ce n'est pas aujourd'hui de condamner la personne, c'est plus tard de le voir sauvé. Alors que je comprends au fur et à mesure de plus en plus l'amour du Père, je suis en capacité alors du coup d'aimer mon prochain, d'aimer mon frère, ma sœur, et de voir vraiment comme Dieu nous appelle à demander. Jean 15, 12. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors que nous découvrons l'amour du Père et que de plus en plus serons en capacité d'aimer comme Jésus nous a aimés, alors que ce soit la timidité ou n'importe quelle limite qu'on se fixerait, on dirait par amour pour le Père, parce que Jésus nous a aimé, on est capable de dépasser nos limites. On est capable de comprendre la réalité de l'intercession et de dire ma prière, aussi méprisable ou aussi petite que puisse être ma prière, elle a de l'importance. Elle a autant de valeur que quelqu'un qui est spirituel, entre guillemets. Parce que j'ai autant de valeur aux yeux du Père que n'importe qui d'autre. Et cette valeur, elle est énorme. C'est à moi de comprendre la valeur que Dieu me porte, l'amour que Dieu le Père me porte. Alors là, on comprendra que celui qui est dans le péché ou celui qui est dans le besoin, celui qui a besoin d'intercession, il a besoin aussi de ma prière, que j'intercède du plus profond de mon être, ému de compassion dans mes entrailles, que celui qui est perdu a besoin de l'évangile que moi je connais et que je veux communiquer du plus profond de mes entrailles. Le plus important, ce n'est pas que je me tape la honte ou que je me prenne un râteau ou des rejets. Le plus important, c'est le salut de mon prochain. Ou alors que je suis en colère contre mon frère ou ma sœur, le plus important, ce n'est pas que je me fasse ma propre justice. C'est la réconciliation. Parce que le Père a tout donné. Il a donné son Fils pour que nous soyons quoi? Réconciliés avec le Père. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans tout ça. Seigneur mon Dieu, je veux te prier afin que tu nous ouvres les yeux. Afin que nous puissions comprendre, Seigneur mon Dieu, la réalité de ton amour, encore beaucoup plus, la profondeur, la hauteur, la largeur, Seigneur mon Dieu, la longueur de ton amour, Seigneur Jésus, à notre égard, pour les autres, Seigneur Jésus, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, encore aller beaucoup plus loin dans, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous appelles à faire, à ce que tu nous demandes à être, Seigneur mon Dieu. Oui, nous sommes, peut-être intellectuellement, nous le savons, nous sommes enfants de Dieu, Seigneur Jésus, mais nous voulons tout pleinement réaliser ces choses, Seigneur mon Dieu, comme peut-être ce fils aîné, ce fils cadet qui peut-être ne réalisait pas ce que ça voulait dire être enfant de ce Père miséricordieux, plein de compassion, plein d'amour, Seigneur mon Dieu, et quel privilège ils avaient, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être là et nous présenter devant toi, te demandant ta grâce et de nous aider, Seigneur mon Dieu, à comprendre le privilège que nous avons, nous, de te connaître, nous, de pouvoir intercéder, nous, de pouvoir être en relation avec toi, Seigneur mon Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, te demander pardon, Seigneur mon Dieu, parce que bien imparfait que je suis, Seigneur mon Dieu, je suis parfois dans le jugement, parfois dans la critique, parfois dans la crainte, Seigneur mon Dieu, ne réalisant pas complètement, Seigneur mon Dieu, toute la grâce à mon égard, toute la grâce, Seigneur mon Dieu. Je veux savoir, mon Dieu, communiquer cet évangile, je veux savoir communiquer cet amour que tu nous as, communiqué, Seigneur mon Dieu. Alors je veux te prier, Seigneur mon Dieu, de nous aider. Merci, Seigneur mon Dieu, de conduire ces instants, ces moments, Seigneur mon Dieu, à ce que nos cœurs soient réveillés. Qu'à chaque fois qu'on se rassemble, Seigneur mon Dieu, que ce soit le dimanche matin, le samedi soir ou dans n'importe quel type de réunion, dans le jeûne et prière, Seigneur mon Dieu, nous puissions prendre à part ces réunions avec importance, Seigneur mon Dieu, considérant que notre prière, notre participation, notre présence, elle est importante, Seigneur mon Dieu, parce que tu as tout donné pour nous, parce que nous avons de l'importance à tes yeux et que tu nous appelles à combattre le bon combat et que, Seigneur mon Dieu, nous pouvons avoir un impact, Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur mon Dieu, de nous ouvrir, Seigneur mon Dieu, de nous donner cette vision, Seigneur mon Dieu, que tu as, Seigneur mon Dieu, de ce monde, que tu as tant aimé, que tu as donné ton Fils unique pour nous, pour que nous soyons sauvés et pour que, Seigneur mon Dieu, tous les autres autour de nous soient sauvés. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen.